Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du 15 mai, en direct du Studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, en RCA, toujours la spirale de la violence. Plusieurs morts auraient été enregistrées hier dans le centre et le sud du pays. À Bangui, les anti-balaka se réorganisent.
Il y a aussi des faux anti-balaka qui sévissent dans la ville, mais on va les traquer. Il n'y a que ça à faire.
Au Nigeria, le drame des centaines de lycéennes enlevées par Boko Haram continue. La présidence a fermé la porte à toute négociation. Au Soudan, une chrétienne a été condamnée à mort par pendaison pour apostasie. En Turquie, colère et tristesse, deux jours après la mort de plus de 280 personnes dans l'explosion d'une mine. À New York, Barack Obama a inauguré le musée national du 11 septembre. Sans oublier les sports et la musique, mais avant, le journal.
République centrafricaine, le bilan des combats s'alourdit à travers le pays. Une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre anti-balaka et combattants de la Seleka dans la région des Dekwa, dans le centre de la RCA. Par ailleurs, à Boda, dans le sud du pays, une musulmane de 12 ans a été tuée par balle hier.
Toujours en RCA, le corps de la photojournaliste Camille Lepage a été rapatrié aujourd'hui à Paris après une cérémonie à Bangui. Par ailleurs, les anti-balaka ont nommé ce jeudi Sébastien Wenzoui, leur coordonnateur national. On fait le point avec Idriss Fall.
Avant le rapatriement de son corps à Paris, Camille Lepage a reçu les derniers hommages à la base de l'opération Sangaris près de l'aéroport de Bangui. La messe d'adieu a été dite par le père Yann Poitieu, aumônier des armées françaises. Par ailleurs, la milice anti-balaka a tenu une assemblée générale ce matin au PK9 à la sortie sud de Bangui. Sébastien Wenezoui a été nommé coordonnateur national.
Je fus d'abord leur porte-parole général, donc je les connais tous. Et dès que je leur parle, ils seront obligés de m'écouter. Il y a aussi des faux anti-balaka qui sévissent dans la ville, mais on va les traquer. Il n'y a que ça à faire.
Au cours de l'Assemblée générale, Léopold Narcisse Barra, ministre de la Jeunesse et représentant des anti-balaka au sein du gouvernement de transition, a appelé à la protection des populations musulmanes.
Sachez aussi que le Fonds monétaire international a débloqué jeudi une aide d'urgence de près de 13 millions de dollars en faveur de la République centrafricaine. L'armée camerounaise a fait hier une incursion en Centrafrique afin de libérer plusieurs personnes qui avaient été prises en otage par des hommes assimilés à des ex-Seleka. Le point avec Moki Edwin Kinzeka, correspondant de la VOA au Cameroun.
Selon le gouverneur de la région de l'Est Cameroun, M. Samuel Ibarra Djelone, les Centrafricains sont arrivés à Garoua-Boulaye, une localité située aux frontières, et ils ont pris en otage 6 Camerounais. Et après, selon le gouverneur, ils ont encore pris 14 personnes non identifiées. Donc, les militaires camerounais sont repostés. Ils sont entrés, dépassés les frontières centrafricaines dans les Brousses et ils ont libéré 8 des 20 otages qui ont été pris hier soir. Donc, selon l'État camerounais, ce sont les rebelles et les cas. Parce qu'ils sont arrêtés et ils sont en cellule en Pétoua, à l'Est Cameroun.
Moki Edwin Kinzeka, correspondant de la Voix de l'Amérique au Cameroun.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan refuse de négocier avec Boko Haram la libération des lycéennes kidnappées par les islamistes. À Abuja s'est tenue cette nuit une veillée pour marquer le 30e jour de l'enlèvement des jeunes filles. Bagasikoura.
Le père de deux des jeunes filles enlevées le 14 avril a affirmé que la solidarité lui donne la force. « Je n'arrive pas à manger quand des amis viennent, discutent avec moi. Souvent, vous me trouvez en train de dormir, pensant à ce qui va arriver à nos filles. Mais en vous voyant ce soir, cela me donne l'espoir et vous me donnez du courage. » Dans une vidéo diffusée cette semaine, Boko Haram demandait la libération de ses combattants en échange des filles enlevées. Le gouvernement nigérien s'est dit ouvert à la négociation, mais le président Goodluck Jonathan a rejeté la libération des prisonniers de Boko Haram. L'armée américaine utilise des drones en plus des avions espions pour aider à retrouver les filles.
Aujourd'hui au Soudan, une femme chrétienne a été condamnée à mort par pendaison pour apostasie. Elle soutient cependant n'avoir jamais renoncé à sa foi. Nathalie Barche.
Meriam Yahya Ibrahim Ishag est née d'une mère chrétienne et d'un père musulman. Enceinte de 8 mois, elle est détenue avec son fils de 20 mois. Le juge Abbas Al-Khalifa l'a condamnée à la peine de mort par pendaison et également à 100 coups de fouet pour être mariée à un non-musulman. Peu avant ce verdict, la jeune femme avait refusé d'abjurer sa foi. Elle a déclaré au tribunal « Je suis chrétienne et je n'ai jamais fait acte d'apostasie ». Amnesty International s'est dit horrifié par cette condamnation et demande sa libération immédiate. Par ailleurs, Human Rights Watch a appelé aujourd'hui les autorités saoudiennes à libérer deux Saoudiens de la doctrine Ahmadi accusés d'apostasie et qui sont en prison depuis 2 ans sans aucune inculpation. Les Ahmadis sont considérés comme hérétiques par beaucoup de sunnites. Ce mouvement réformiste musulman a été fondé par Mirza Ghulam Hamad, fin 19e, dans l'ex-Pakistan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est la colère et la tristesse en Turquie, 48 heures après la catastrophe survenue dans une mine de charbon au sud d'Istanbul. Les familles de victimes comptent leurs morts et pointent un doigt accusateur sur les autorités. Une centrale syndicale a appelé à la grève générale. Issa Napon.
La cité minière de Soma pleure ses morts et laisse éclater sa colère à mesure. 282 corps au moins ont été jusque-là remontés. Seuls 450 des 800 mineurs au travail ont été sortis vivants par les secouristes qui s'efforcent de retrouver quelques 120 personnes encore ensevelies. Le premier ministre turc a été chahuté à la mine de charbon pour avoir déclaré que les accidents miniers sont courants et n'arrivent pas qu'en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a promis une enquête exhaustive sur la tragédie. De son côté, la Confédération des syndicats de la fonction publique turque a appelé à une grève générale ce jeudi pour dénoncer les conditions de travail dans les mines. Les proches des victimes accusent le gouvernement de faire primer la rentabilité et le profit sur la sécurité des mineurs. Au cimetière de la ville, des employés municipaux s'affairent à creuser des rangées de tombes pour ensevelir les morts. Dans cette ville de 100 000 habitants, la plupart des commerçants ont baissé le rideau. Tous affichent sur la devanture de leur commerce un message à mémoire des victimes disant « Que vos âmes reposent en paix ».
Attentat à la voiture piégée en Syrie. Au moins 29 personnes ont été tuées à proximité d'un poste de frontière près de la Turquie. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Côté syrien, la frontière est contrôlée par les islamistes s'opposant aux combattants de l'État islamique d'Irak et du Levant. Ces groupes djihadistes rivaux s'affrontent depuis le début de l'année. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères de 11 pays, dit « groupe des amis de la Syrie », se sont réunis à Londres. Au cours de cette rencontre, le secrétaire d'État américain John Kerry a relancé la polémique sur de possibles attaques chimiques. Il affirme avoir vu des informations suggérant que le gouvernement utilise du chlore lors d'attaques au gaz, affectant aussi bien les civils que les rebelles.
En Ukraine, le président intérimaire Oleksandr Turkinov a annoncé la destruction par l'armée de 2 bases militaires des insurgés de l'Est à Kramatorsk et Slaviansk. Il a ajouté que les soldats gouvernementaux ont aussi pris le contrôle d'une tour de télévision à Slaviansk. Les affrontements se poursuivent dans l'Est russophone, alors que à Kiev, les autorités continuent de discuter sur un projet de paix de l'OSCE.
En Thaïlande, la commission électorale a requis le report du scrutin de juillet prochain. Cette décision fait suite à la mort de 3 personnes hier lors d'une attaque contre les manifestants antigouvernementaux à Bangkok. Ces violences interviennent une semaine après la destitution du Premier ministre Yingluck Shinawatra par la Cour constitutionnelle. Ses partisans ont juré de la défendre malgré tout.
Présidentielle afghane, le deuxième tour aura lieu le 14 juin, soit 2 semaines après la date initialement prévue. La commission électorale a annoncé les résultats définitifs aujourd'hui du premier tour. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah, sort en tête avec 45% des voix. Il affrontera Ashraf Ghani, ancien économiste de la Banque mondiale, qui a obtenu 32%. Quant au deuxième tour, il aura lieu avec 2 semaines de retard. Explication des autorités, le matériel électoral a été endommagé lors d'un attentat contre le siège de la commission.
Naufrage au Bangladesh, les autorités disent qu'un ferry transportant au moins 200 personnes a chaviré sur le fleuve Meghna près de la capitale, Dhaka. Au moins 6 corps, dont celui d'un enfant, ont été récupérés. Le bilan pourrait être révisé à la hausse.
Bonne nouvelle pour l'économie américaine. Le nombre de chômeurs a chuté à son niveau le plus bas depuis 7 ans. C'est un autre signe que le marché du travail est en train de s'améliorer. Le taux de chômage est maintenant à 6,3%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil. Au Bénin, le président Thomas Boni Yayi a accordé hier soir son pardon à diverses personnes qui étaient accusées d'avoir tenté de l'empoisonner et d'attentat à la sûreté de l'État, Gabi.
Parmi elles, l'homme d'affaires béninois Patrice Talon, la nièce, le médecin personnel et le garde du corps du président. Pour une réaction à la décision du chef de l'État béninois, Timothée Donangmaï a contacté à Cotonou Sadiko Alao.
Il a fait preuve de beaucoup de magnanimité et de tolérance en acceptant d'accorder son pardon à tout ce monde-là. Il faut espérer qu'on n'aura plus personne qui tentera une telle aventure dans le futur.
Apparemment, cette décision est intervenue suite à la médiation de hautes personnalités étrangères, notamment le président François Hollande et l'ancien président sénégalais Abdou Diouf.
Oui, d'après ce qu'il a dit lui-même, oui, c'est exact.
Alors, est-ce que ce pardon s'applique à toutes les personnes impliquées dans cette affaire?
Oui, il a dit toutes les personnes impliquées dans cette affaire, oui.
On sait qu'il y a également le juge Angelo Wessou qui avait pris une ordonnance de non-lieu dans cette affaire et qui a dû se réfugier ici aux États-Unis. Est-ce qu'il est aussi concerné?
Je ne sais pas, parce que d'après ce que le président a dit, c'est les personnes impliquées dans le... une fonction d'empoisonnement et de la tentative de coup d'État. Le juge Oussou, je crois qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire-là et je crois qu'il est poursuivi dans une affaire de corruption, si mes souvenirs sont exacts, au moment où il a quitté le Bénin. Donc, il fait l'objet d'une poursuite tout à fait différente, hein, je crois. Maintenant, est-ce que... on peut l'étendre à lui. Bon, je ne peux pas le dire a priori, puisque le chef de l'État a cité lui-même les deux délits qui sont concernés par son pardon.
Comment les Béninois accueillent-ils cette décision du président Boni Yayi?
Bon, c'est difficile parce qu'il n'y a pas eu un sondage. Mais je sais que beaucoup de journalistes avaient souhaité qu'il accorde son pardon. Ils l'ont dit plusieurs fois. Et comme c'est lui le premier intéressé, c'est bien qu'il ait fait. Il faut seulement espérer que personne ne sera plus tenté par une telle aventure de vouloir la mort d'un chef d'État pour pouvoir se venger de quoi que ce soit.
Sadiko Alao est président de l'ONG Gerdes Afrique. Il était joint à Cotonou.
La Voix de l'Amérique au Bénin. Sur Fraternité FM à Parakou.
En Côte d'Ivoire, le péage de l'autoroute du Nord a démarré ce jeudi avec des prix jugés exorbitants par les usagers et les associations de consommateurs. Qu'en dit-on du côté du gouvernement, Gabi?
Eh bien, les membres du gouvernement estiment que ces tarifs ont été étudiés et sont, selon eux, conformes à la réalité du marché. Germain Ndry, notre correspondant à Abidjan, nous présente ces deux positions.
Les tarifs annoncés et mis en application pour franchir l'autoroute du Nord, longue de 224 km, sont selon les usagers trop élevés. Kwadio Nyangoura, chauffeur de gros camions.
C'est trop. Imagine un cas qui fait Abidjan, Yamoussoukro, qui doit aller 4 fois, ça lui fait déjà plus de 10 000. Si le gouvernement peut voir réduit au moins à 500 ou 1000 francs, je pense que tout le monde sera gagnant. Sinon, 7 000 francs, c'est vraiment trop. Dans la sous-région, nous sommes les plus chers. Côte d'Ivoire est le plus cher. Moi, je suis allé au Ghana plusieurs fois. Ghana, ça n'atteint même pas 500. Au Mali, ça n'atteint même pas 1000 francs. On est les plus chers. Vraiment, c'est trop.
Pourquoi Kwakoungessan, président de l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire, les autorités n'ont pas pris en compte les préoccupations des usagers de la route.
C'est pas normal de fixer le prix à ces montants-là. Je trouve que c'est trop. Ceux qui ont pensé, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de la bourse des consommateurs. Donc à l'Union Générale des Consommateurs, nous disons non, non et non à l'application de ce montant-là parce qu'il faut revenir à un prix raisonnable qui puisse être accessible à tous. Il faut amener le consommateur consommateur à avoir le plaisir de payer et non pas à le contraindre de payer. Nous sommes d'accord, nous voulons payer, mais pas à ce prix-là.
Le porte-parole du gouvernement a, au cours d'un exposé, affirmé les raisons qui ont guidé la fixation de ces prix. Bruno Koné.
Ces niveaux-là nous paraissent parfaitement raisonnables. Quand vous allez à Yamoussoukro, il suffit de compter le carburant que vous consommez. Si dépenser ce carburant vous paraît normal, je suis surpris que 2500 francs vous paraissent insupportables. 7500 pour le car de transport. Dans le car de transport, il y a 70 000 de personnes payent 7500. Les camions, les poids lourds, qui sont ceux qui usent le plus les routes, c'est 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'est 35 tonnes de marchandises. 35 tonnes de marchandises, selon le type de marchandises, vous pouvez imaginer la valeur que cela représente. Donc on ne peut pas imaginer sur l'instant que les 10 000 francs soient, dans le cas d'espèce, excessifs. Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous pensons que les tarifs qui ont été fixés là sont des tarifs raisonnables.
Quant à l'impact que ces prix pourraient avoir sur les tickets de transport, le ministre des Infrastructures économiques rassure Patrick Agier.
Ça n'aura pas vraiment d'impact ni sur les tarifs des usagers de transport, ni sur le prix des marchandises qui sont transportées. Alors, les tarifs aujourd'hui sont pratiquement les tarifs... En tout cas, le benchmarking que nous avons fait indique que ce sont les tarifs parmi les moins chers au monde aujourd'hui. Comparaison du coût de construction moyen au kilomètre d'une autoroute et des services liés à la gestion de cette autoroute-là. On est aujourd'hui autour de 11 francs CFA le kilomètre.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Amnesty International s'est dit horrifié par la condamnation à mort d'une jeune chrétienne soudanaise et demande sa libération immédiate. Myriam Yahya Ishag a été condamnée à mort par pendaison pour apostasie. Enceinte de 8 mois, elle est détenue avec son fils de 20 mois.
Peu avant le verdict, la jeune femme avait refusé d'abjurer sa foi. Nathalie Barge a contacté Marie-Claude Gendron, coordonnatrice pour le Soudan à Amnesty International.
La réaction d'Amnesty International, c'est que cette personne est une prisonnière d'opinion qui est déclarée coupable uniquement en raison de ses croyances et de son identité religieuse et qu'elle doit donc être relâchée immédiatement et sans condition.
Elle déclare qu'elle est chrétienne depuis le début, c'est ça ?
Oui, alors selon nos informations, sa mère était chrétienne et son père musulman, mais étant donné que dans son enfance, elle n'a été élevée que par sa mère, elle a donc été élevée suivant le rite chrétien. Et donc pour elle, elle est chrétienne, elle n'a jamais été musulmane. Mais la juridiction soudanaise, depuis 1991, condamne les personnes qui ne sont pas de religion musulmane et les condamnations jusqu'à présent sont toutes tombées parce que les personnes ont renié leur foi et accepté de se convertir à la religion musulmane.
Donc là, on est dans un cas finalement où cette femme, elle tient bon en quelque sorte.
Exact.
De quelle manière allez-vous suivre l'affaire ?
Bien, nous allons mobiliser nos militants pour qu'ils réagissent vis-à-vis du ministre de la Justice, des autorités soudanaises, pour qu'elles renoncent à exécuter cette jeune femme. Déjà depuis 2012, le Soudan avait beaucoup durci tout ce qui découle de l'application de la charia. Des femmes sont arrêtées et condamnées pour tenue indécente. Et rien que dans l'état de Khartoum, on nous a parlé de plus de 40 000 femmes par an qui seraient arrêtées et condamnées pour tenue indécente.
Alors, on parle d'une femme enceinte qui est en prison avec son petit garçon. Et puis, elle va également être fouettée, n'est-ce pas ?
Exactement, puisque l'adultère est puni par la flagellation et la criminalisation de l'adultère qui est faite par le Soudan bafoue complètement les droits fondamentaux et discrimine systématiquement les femmes.
Expliquez-nous cette définition de l'adultère, justement, parce que ce n'est pas celle qu'on imagine. Hein.
Exactement. Dans le cas présent, cette femme est considérée comme adultère parce que elle a épousé un Soudanais du Sud qui est lui chrétien, donc elle est mariée suivant le rite chrétien. Donc le mariage n'est pas reconnu par le Soudan.
Marie-Claude Gendron, coordonnatrice pour le Soudan à Amnesty International.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Le président Barack Obama a inauguré aujourd'hui à New York un nouveau musée à la mémoire des quelque 3000 victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Un compte-rendu de Michel Joseph.
Monsieur Obama a rappelé l'héroïsme des secouristes qui ont aidé à sauver des milliers de gens bloqués dans les deux tours du World Trade Center, percutés par les avions détournés par Al-Qaïda. Tout en rappelant cette journée horrible dans l'histoire des États-Unis, il a déclaré que le musée réaffirme aussi le vrai esprit qu'il faut retenir du 11 septembre, l'amour, la compassion et le sacrifice d'une nation.
A nation that stands tall.
Une nation debout, unie et non effrayée, parce qu'aucun acte de terrorisme ne peut ébranler la force ou l'essence même de notre pays. Les familles et proches des victimes et secouristes, ainsi que des dignitaires de l'État et de la ville de New York, étaient présents à l'inauguration de ce musée national situé sur le site même où étaient les tours du World Trade Center. Le musée de 700 millions de dollars ne sera ouvert au public que la semaine prochaine. La réalisation du projet a pris des années et a été compliquée par des disputes sur sa conception, des retards dans la construction et des désaccords sur là où il fallait enterrer les restes non identifiés de certaines des victimes. L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le musée est un endroit où vous pouvez venir pour comprendre le 11 septembre, à travers la vie de ceux qui ont été tués et de ceux qui se sont rués ici pour aider. Le musée est presque entièrement de construction souterraine. Des pièces massives d'acier tordu, retirées des décombres du World Trade Center, font partie de l'exposition, en même temps que des dizaines de milliers d'articles et objets en rapport avec les attentats et leurs séquelles. Il y a des photos de victimes, une note appelant à l'aide et des voix de gens du monde entier se rappelant où ils étaient quand ils ont appris ces attaques et suivi en direct à la télévision ces événements qui vont changer la marche du monde. Un film intitulé « La montée en puissance d'Al-Qaïda » peut être vu à la fin de l'exposition. En entrant dans le musée ou en sortant, les visiteurs peuvent apercevoir à travers un plafond en verre une nouvelle tour appelée One World Trade Center qui doit s'ouvrir cette année.
Et nous passons tout de suite à notre page sport préparée et présentée aujourd'hui par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o était au Burkina.
Oui, la star camerounaise a séjourné au Burkina Faso mardi et mercredi dernier en tant qu'ambassadeur de la Copa Coca-Cola, une compétition de jeunes. Le grand bénéficiaire, Chérubin, de ce passage de Samuel Eto'o est Abdoul Salam Ouedraogo, un jeune joueur de 15 ans que Samuel Eto'o a décidé d'amener avec lui au Brésil à la Coupe du Monde 2014.
Eto'o s'est exprimé sur la rivalité au sein des Lions Indomptables.
Mais il n'y a pas de rivalité entre Eto'o et d'autres joueurs parce que nous sommes d'abord fils d'une même mère. Nous autres, nous avons eu une grande chance, c'est de devenir joueur professionnel et cela implique beaucoup d'avantages dont je ne vois pas quelle différence nous pouvons avoir parce que et quand on vient défendre notre beau et cher pays, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir de rivalité. Moi, du moins de mon côté, je n'en ai pas.
Il faut ajouter, Bagassi, qu'après le Burkina Faso, Samuel Eto'o est arrivé à Abidjan où il a traité son entraîneur de guignol.
Oui, il ne s'agit pas de l'entraîneur des Lions Indomptables, mais plutôt l'attaquant du club anglais de Chelsea s'en prenait à l'entraîneur José Mourinho de Chelsea. Il le traitait donc de guignol dans un entretien paru aujourd'hui donc, dans la presse ivoirienne. Ce n'est pas parce qu'un guignol m'a traité de vieux que vous allez croire, Chérubin, à cela, a déclaré Samuel Eto'o, répondant à une question sur son âge. Vous vous rappelez que José Mourinho avait mis en doute l'âge réel de Samuel Eto'o. C'était dans une interview en février dernier.
D'ailleurs, Eto'o n'est pas seul à s'en prendre à son entraîneur.
Oui, apparemment, c'est la mode. Le Français Franck Ribéry a critiqué le système de rotation imposé par l'entraîneur Pep Guardiola au Bayern Munich. Ils sont à deux jours de la finale de la Coupe d'Allemagne samedi face à Dortmund. Parfois, tu joues, parfois, tu restes sur le banc et parfois, tu restes à la maison. Ce fut pour tous une situation nouvelle, a déclaré l'international français sur le site de l'hebdomadaire spécialisé allemand Kicker.
Parlons basket maintenant, les playoffs de la NBA.
Oui, hier soir, les San Antonio Spurs se sont qualifiés pour la finale de la conférence Ouest en surclassant pour la quatrième fois en cinq matchs les Portland Trail Blazers. Les Spurs ont dominé le match numéro 5 sur le score de 104-82. San Antonio affrontera en finale de la conférence Ouest Oklahoma City ou les Los Angeles Clippers Miami, double tenant du titre de NBA, donc s'est qualifié pour la quatrième année consécutive pour la finale de la conférence Est. Miami devra soit affronter Washington ou affronter donc les Indiana Pacers.
Deux équipes qui vont se rencontrer ce soir.
On pense que ce sera Washington. Les deux équipes
alors,
se croient ce soir.
Alors, on sait toi ou c'est Lionel Gaïma?
Et Sherwin Dorsil aussi.
Merci Bagassi Koura pour les sports.
Allez, c'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Roger Muntou qui nous a ramené quelqu'un en studio.
Mais voilà, c'est ça Morgane, la star de la musique guinéenne, l'auteur de Zaylé, de Tignalé, beaucoup d'autres belles mélodies, hein, Séni, Maloumou, et au studio avec nous, comme vient de l'annoncer Morgane, bien sûr. Elle sera notre invitée aussi dans RM Show, un avant-goût, les amis, dans la chanson Tignalé.
Roger, le micro est ouvert, il faut arrêter de danser là.
Mais c'est bien, mais écoute Morgane, mais c'est vrai, je vais danser, j'ai oublié, j'ai complètement
fermé. Roger, c'était oublié, les têtes debout, main
mais
sur la tête.
Je m'excuse, mais vraiment, heureusement qu'on ne peut pas me voir.
Pitié pour Roger Morgane, il n'est pas le seul à danser d'ailleurs.
Bon, toi, tu as un petit peu bougé.
Notre grande vedette, Séni Maloumou, est en train de danser.
Elle est là, elle dansait elle-même.
Oui, c'est vrai.
Ça lui très bien commencé.
Je voudrais vous montrer à danser, mais je sais que vous dansez plus que moi-même.
Non, mais ça, c'est pas vrai. Parce que notre collègue Morgane, qui est à côté de vous, là, elle danse plus que tout le monde ici à la voix d'Amérique.
Elle n'a pas dansé.
Non, elle n'a pas dansé parce qu'elle attendait d'abord.
Non,
elle voulait apprendre.
Moi, je ne danse pas à la voix d'Amérique. je danse dans les endroits où on danse, quoi.
Ah oui.
Où on danse? Mais alors, on vient danser, il y a un concert ici, ou qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous réservez à nos auditeurs cet après-midi?
Vraiment, ce que j'ai réservé pour les auditeurs, c'est ce que vous allez me donner.
Ah, d'accord. Donc, c'est ce que nous allons faire.
Dès que vous me donnez, je vais leur donner.
Ah, ben super. Ils sont nombreux à attendre, n'est-ce pas, ce moment avec la star de la belle musique guinéenne.
Est-ce qu'on aura la chance de vous entendre ici à Washington?
Oui. Moi, c'est très
une
contente.
Très bonne question.
Je ne peux même pas dire ça. Je suis dépassé même.
Il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de concert.
Il y a un concert
prévu
à Washington?
Ah, il y a un concert. Ah bon? Il m'attend ici très fort.
Ouais.
Je dois me retourner en Guinée pour me préparer très bien pour que je vienne faire ça.
Ouais. Et qui vous a amené ici? Comment vous êtes venu ici? Vous avez un producteur? Comment?
J'ai un manager. Pas un producteur.
Ouais, c'est un manager.
Les producteurs sont à Conakry.
Ouais.
Et j'ai un jeune, ma fille, je travaille avec ma fille, Louise Joglemont, elle est à Zérékoré,
ouais,
et Conakry.
Oui.
Donc,
elle nous écoute maintenant?
Oui, elle nous écoute.
Mais salut Louise. Bonjour.
Bonsoir,
Louise.
comment on dit
bonjour Louise dans votre langue?
Louise, Eyipale.
Louise, Eyipale.
Eyipale
pour Nakonobe.
Alors, telle mère, telle donc, fille, Louise doit être très jolie.
Ça, c'est grâce à Louise que j'ai connu Martin Delamont.
Oui.
Donc, et puis, moi, je connais sa femme. Sa femme est la femme de ma soeur.
Ah, ben super. Ah.
Donc,
c'est toute la famille.
Une histoire de famille.
Je suis venue la rencontrer ici. Moi, je ne savais pas qu'elle est mariée à Martin.
Ah, c'est une surprise. Voilà, le monde est petit.
Alors, Séni, ne partez pas. Restez là où vous êtes. Vous allez avoir la chance de parler beaucoup plus avec nos auditeurs. C'est
ah
ça,
oui,
Roger?
Moi, je vais beaucoup apprendre de notre artiste aujourd'hui. Ça, sûr.
Voilà.
Voilà, ben merci pour cette page musicale qui n'est pas totalement fermée puisque Roger Muntou revient dans quelques minutes dans le RM Show. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Lionel Gaïma à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgane Guiriac au micro.
et chez Ruben Dorcil. Merci à Tian Wang à la technique.
À demain.